États-Unis, anatomie d'une démocratie.
3 ans après la prise du Capitole, la démocratie américaine est fragile, violente et au bord du chaos. Kamala Harris, comme Donald Trump, prétendent vouloir la sauver. Mais quelle est la véritable histoire de cette démocratie? Un modèle ou une utopie jamais réalisée?
Thomas Negaroff.
6 grandes dates, 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'historien Romain Huré.
Épisode 6, 2021, la prise du Capitole.
Nous allons au Capitole. Nous allons essayer de donner à nos républicains les plus faibles, parce que les plus forts n'ont pas besoin de notre aide, nous allons essayer de leur donner le genre de fierté et d'audace dont ils ont besoin pour reprendre notre pays. Donald Trump, le 6 janvier 2021. Romain Huré, on continue ensemble à évoquer et à entrer dans le fond de cette démocratie américaine. Le 6 janvier 2021, le jour de ce qu'on appelle la prise du Capitole, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe ? Et en quoi c'est très important par rapport à notre sujet?
C'est un événement fondamental et un événement qu'on va continuer à étudier pendant des décennies, hein, puisque c'est une rupture colossale dans le fonctionnement ordinaire de la démocratie. Qu'est-ce qui se joue exactement ce jour? C'est la transition démocratique. Et la transition, elle est fondamentale dans une démocratie. C'est le moment où le camp qui a perdu rend les clés et décide de... de quitter Washington. Washington est une ville particulière, hein, puisque les fonctionnaires sont présents et dépendent de l'administration qui est élue. Hein, donc beaucoup s'en vont et laissent la place à la nouvelle administration, au nouveau président. C'est un moment qui est très ritualisé aux États-Unis. Pendant longtemps, la transition durait 4 mois, hein, et on laissait autant le temps nécessaire pour que le président vainqueur arrive à Washington. Hein, et donc, il y avait toute une cérémonie qu'on a vue dans des films, qu'on a célébrée dans des chansons ou dans des romans, hein, où le président prenait le train et arrivait avec son équipe, s'arrêtait de ville en ville, hein, pour célébrer sa victoire, et arrivait avec son administration à Washington 4 mois plus tard. Aujourd'hui, on a réduit, c'est 2 mois.
Donc depuis Roosevelt.
Depuis Roosevelt. Mais il y a un moment qui est fondamental, c'est le moment où on compte les voix, on compte les grands électeurs, et on décide, on proclame qu'un camp l'a emporté.
Et ça, c'est le 6 janvier 2021.
Ça, c'est le 6 janvier, et pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, un candidat dit non, je ne suis pas d'accord.
Et il n'est toujours pas aujourd'hui.
Et il n'est toujours pas aujourd'hui, et il continue pendant la campagne actuelle à dire qu'il n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec le résultat de l'élection. L'élection m'a été volée dans un certain nombre d'États, notamment les États clés. Et donc, il demande à ses partisans d'aller au Capitole pour protester, hein, contre ce qu'il estime être un vol démocratique. Et cet événement-là est tout à fait extraordinaire, hein, puisqu'il rompt, hein, ce fonctionnement ordinaire de la démocratie.
We're gonna walk down and I'll be there with you.
On va marcher jusqu'au Capitole,
parce que vous ne reprendrez jamais votre pays par la faiblesse. Il faut montrer de la force.
Un vol démocratique, mais, et c'est là où c'est très paradoxal, au nom de la démocratie.
Tout à fait, au nom de la démocratie, Trump se présente et continue à se présenter comme étant le défenseur de la démocratie face à des démocrates qui auraient volé l'élection, hein, et qui auraient triché dans les États en manipulant le décompte des voix. Hein.
Et les assaillants, de très bonne foi, considèrent, eux, qu'ils font acte de défense de la démocratie, sont à la hauteur des pères fondateurs. Ils entrent dans le Capitole, non pas pour le détruire, mais pour le récupérer, pour le redonner au peuple.
Absolument, c'est tout le paradoxe de ce qui se joue à ce moment-là, c'est qu'ils vont s'attaquer à la démocratie au nom de leur vision de la démocratie qu'ils estiment bafouée depuis tant d'années par les démocrates.
The tip of the spear has entered the Capitol building.
USA! USA!
Ils ont l'idée que les démocrates volent les élections. Ça, c'est un leitmotiv qu'on a chez les républicains.
Oui, c'est un vieux leitmotiv, cette vision du démocrate corrompu.
Ça
remonte aux années 60, à Kennedy, la famille Kennedy, le père Kennedy, qui aurait soi-disant acheté beaucoup de voix à Chicago et ailleurs. Donc, il y a quelque chose qui court dans l'histoire politique des États-Unis, hein, cette idée que les démocrates parfois sortent le chéquier ou les dollars pour acheter les élections, en particulier dans les grandes villes.
Mais si on revient à 1960, Richard Nixon, qui est au courant de toutes les rumeurs, décide de ne pas recompter parce qu'il dit « le temps est grave, c'est la guerre froide, et puis c'est ainsi, j'accepte ma défaite ». Et c'est rare de prendre Richard Nixon pour un parangon de vertu ou de morale. Hein.
Absolument, mais je le répète, hein, c'est quelque chose qui est très ritualisé, qui est un peu sacré dans une démocratie. C'est-à-dire ce moment de la transition, reconnaître sa défaite, dans l'histoire du XXe siècle, ça a plutôt fonctionné, même si c'est dur pour le camp qui perd de partir comme ça. Mais dans l'ensemble, on a accepté cette défaite et on a quitté Washington.
Et ça se passe plutôt bien. Moi, j'ai en mémoire la lettre que laisse George Bush, père Herbert, à son successeur, Bill Clinton, après une campagne difficile, où il donne des conseils et il l'encourage à être un bon président. C'est vraiment le symbole d'une transition pacifique et réussie.
Oui, c'est le symbole. La campagne avait été dure. La victoire de Clinton se fait dans la douleur, dans la difficulté, pour le camp adverse. Mais on accepte le résultat des urnes. On raconte qu'en 2000, l'administration enlèvera des touches des ordinateurs la touche W lorsque George W. Bush est élu à la Maison-Blanche. Mais c'était tout à fait dérisoire par rapport à ce qu'on a connu le 6 janvier 2021.
C'est un peu potache. Mais restons un instant sur le Capitole, la prise du Capitole, parce que je crois que c'est une pierre angulaire de notre discussion. En tant qu'historien spécialiste des États-Unis, qui travaille le sujet depuis 20 à 30 ans, comment t'as regardé en direct ces images à la télévision ? Qu'est-ce que tu t'es dit ?
J'étais assez stupéfait, comme j'ai pu l'être le 11 septembre. On sait que ces images vont marquer à vie le citoyen que je suis et le chercheur aussi. Puisque jamais je n'aurais imaginé qu'on allait s'attaquer de cette manière-là au Capitole, qu'on allait mettre en cause la transition démocratique, qu'on allait mettre en cause avec autant de violence le résultat d'une élection. La vie politique a toujours été traversée par des conflits, des violences, des insultes. Ça fait partie du jeu politique. Là, on est en autre chose. On est dans un temps où un camp refuse de laisser la victoire à l'autre et l'accuse d'être antidémocratique. Des images qui sont tout à fait surprenantes pour l'historien que je suis aux États-Unis, où malgré tout, cette démocratie a tenu. Elle a tenu après une guerre civile au 19e siècle, elle a tenu après des tensions très fortes dans les années 60. Elle a réussi à tenir, on respectait cela. C'est ce qui nous faisait tenir ensemble, la Constitution, la résolution du conflit par l'élection. Là, on voit qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à s'entendre, même après le résultat électoral de novembre.
Mais est-ce que pour toi, c'est Donald Trump, le fait nouveau, ou bien c'est une cocotte minute qui a explosé, qui devait exploser à un moment donné de manière particulièrement violente ? Parce que si on prend un peu de distance historique, en 2000, l'élection de Bush, elle est difficile face à Al Gore. Il y a des recomptages et jusqu'à ce que la Cour suprême donne la victoire à George Bush et annonce la fin du recompte. On est en décembre, donc 6 semaines après l'élection présidentielle. En 2008, Barack Obama est élu, mais immédiatement, les Républicains disent « Il n'est pas né aux États-Unis, il n'a pas le droit d'être américain ». D'ailleurs, l'un des tenants de cette hypothèse complotiste, c'est Donald Trump à l'époque, qui n'est pas encore président, loin de là. On poursuit en 2016, il l'emporte, mais les démocrates disent « Hillary Clinton a eu plus de voix ». En 2020, on y arrive, c'est l'idée d'un vote volé. Donc, il y a quand même une profondeur de champ historique qui marque et qu'on n'a pas chez nous, par exemple, ça.
Pour l'instant, on accepte le résultat électoral en France. Et il faut espérer que ça dure, parce que c'est essentiel. C'est le moment où les tensions sont tranchées par le vote. Et je pense que c'est plutôt un bon signe dans une démocratie qu'il y ait des conflits, qu'il y ait des désaccords. Et aux États-Unis, ils sont extrêmes. On voit bien qu'il y a deux camps. Sur à peu près n'importe quel sujet, on va avoir des tensions fortes, des polarisations très fortes, aiguisées par les réseaux sociaux. Et donc, on a deux camps opposés. Et il y a un moment où ces deux camps doivent s'entendre, puisqu'ils vivent dans le même pays, ils vivent dans la même démocratie. Et le seul moyen de s'entendre, c'est de trancher le désaccord par l'élection. Jusqu'alors, tout au long du XXe siècle, ça a tenu, alors que les désaccords étaient aussi importants. Il ne faut pas croire que dans les années 60,
oui,
années 30,
on a raconté
l'histoire était belle et que Roosevelt est arrivé au pouvoir de manière simple. Il a des ennemis, des gens qui le comparent à un dictateur, donc la violence est là. Mais il y a quelque chose qui est sacré, c'est le résultat électoral. On a gagné, on a perdu, et si on perd, on quitte la scène. Là, on voit bien que depuis une vingtaine d'années, à chaque fois, le résultat est entaché, soi-disant, d'irrégularités, de complots, de conspirations, de gens qui auraient agi dans l'ombre pour faire passer le vote. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour une démocratie. Parce que si on n'arrive pas à dépasser le conflit de manière pacifiée par le vote, il ne reste que la violence. Il ne reste au camp qui a perdu qu'un seul moyen de se faire entendre, c'est par des actions qui peuvent passer pour extrêmement violentes et mettant en danger véritablement les fondements de la démocratie.
Et on a eu, pendant la campagne 2024, un exemple tout de même de ça, de cette violence, à l'encontre, pour le coup, de Donald Trump, qui a été l'objet d'une tentative d'assassinat lors d'un de ses meetings de campagne au mois de juillet 2024. Comment tu l'inscris, ça, dans ta grille de lecture ?
Cet événement montre bien que la violence, elle est présente et que Cette société est très brutalisée hein, par l'ampleur de la militarisation du pays et par cette forte polarisation. Et beaucoup de citoyens ont l'impression que la démocratie ne permettra pas de résoudre cette polarisation. Et donc, il faut supprimer toute ou partie du camp adverse. Hein. Et donc, cette violence-là qu'il a lui-même entretenue, hein, qu'il a beaucoup contribué à la polarisation générale du pays, elle s'est retournée contre lui-même avec cette tentative d'assassinat qui aurait pu réussir. Hein. Et donc oui, là, on aurait été dans une situation tout à fait inédite, sans doute insurrectionnelle, hein, puisqu'on aurait eu un camp... Qui se serait retrouvé sans ce candidat qu'ils aiment tant.
Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu dis que c'est un peu l'arroseur arrosé, celui qui a polarisé, qui a été victime de la polarisation, il a même essayé de retourner le sujet à son profit en se présentant comme le défenseur de la démocratie. Je te propose qu'on écoute Donald Trump. C'était quelques jours seulement après sa tentative d'assassinat en juillet 2024.
Le Parti démocrate doit immédiatement cesser son harcèlement judiciaire et doit arrêter de désigner son adversaire politique comme ennemi de la démocratie. Surtout que c'est faux. En fait, c'est moi qui sauve la démocratie pour le peuple de notre pays.
Donc là, on est Romain, en plein dans ce qu'on raconte depuis le début, à savoir, chacun défend sa propre démocratie, chacun est le tenant de sa démocratie. Or, c'est la démocratie, c'est pas ma démocratie.
Absolument, je ne possède pas la démocratie à titre individuel. Ça a été, les pères fondateurs l'ont voulu ainsi. On délègue le pouvoir à des élus. Ces élus votent les lois. On délègue le pouvoir à un président qui les exécute, hein, ces lois. Donc on est dans un fonctionnement normal de la démocratie telle qu'on l'a envisagée. Là, on voit bien que désormais, chacun a envie que son président, ses élus seuls, hein, votent les lois, les fassent appliquer. Et là, on a une vraie difficulté, je pense, pour le pays.
Et ce qui est aussi intéressant, c'est quand on avait commencé à réfléchir ensemble à cette discussion là que vous êtes en train d'écouter chez vous, en voiture ou ailleurs, on s'était dit, quand même, deux vieux candidats, Biden et Trump, qui se rencontrent, ça raconte aussi l'appauvrissement, le vieillissement symbolique de cette démocratie. Et puis, dans la foulée de la tentative d'assassinat qu'on a vue, aussi d'un débat complètement raté par Joe Biden, il a annoncé qu'il se retirait et que c'est Kamala Harris qui serait candidate. Est-ce que ça change tout de notre perception du personnel politique américain, ça ?
Ça change pas tout, ça montre qu'il y a une volonté de passer à autre chose, et que la crise est tellement importante qu'il est nécessaire peut-être de confier à une génération plus jeune les rênes du pouvoir, qui doit réinventer à la fois sans doute le fonctionnement des grandes institutions. Joe Biden, d'ailleurs, a été un peu précurseur, puisqu'il a appelé à réformer la Cour suprême.
Oui.
C'est une nouveauté, puisque depuis 1937 et l'échec de Roosevelt, hein, il n'y avait pas eu de président qui avait dit « on a peut-être un problème avec cette institution qui ne représente pas suffisamment le pays ».
Il a proposé quoi ?
Il a proposé de limiter dans le temps la nomination des juges à la Cour suprême, hein, donc qui ne seraient pas élus, nommés à vie, hein, mais qui auraient un temps limité, pour éviter cette impression que finalement la Cour est totalement déconnectée du pays. Et éviter bien évidemment ce qu'on a pu observer avec cette décision sur l'avortement, hein, qui a choqué une grande partie du pays. Donc il y a une prise de conscience sans doute qu'il faut réformer les institutions et il faut peut-être confier cette réforme-là à une génération plus jeune qui souhaite que ces institutions-là soient davantage au service de tous les Américains plutôt qu'au service de lobbies ou de groupes de pression qui peuvent être très puissants.
Mais est-ce qu'il y a une vitalité de la démocratie américaine aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut sortir de cette écoute, de ce podcast, un peu optimiste pour la démocratie américaine, où on met de côté la polarisation, l'hyperviolence, et se dire que peut-être qu'il y a quelque chose de sous-jacent de cette démocratie qui ne cesse quand même de se réinventer ?
Il faut l'espérer, et elle s'est toujours réinventée. Hein. J'ai dit que le chercheur que j'étais pouvait être déçu
ou désorienté
par les événements qui le rattrapent. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle a toujours réussi à dépasser les crises. Depuis 200 ans, elle a toujours trouvé des moyens de rebondir et d'adapter la plasticité de la Constitution à la situation actuelle. Donc on peut espérer que des choses identiques se mettent en place aujourd'hui. Et on voit, conclure par une note optimiste, on voit une vraie vitalité, non pas à Washington DC, non pas dans les institutions elles-mêmes, mais on la voit dans tout le pays. On a une jeunesse qui est très fortement mobilisée sur des causes qui tiennent à cœur à cette jeunesse. Les questions identitaires, les questions de liberté sexuelle, la question de l'endettement des étudiants, la question de la méritocratie, de l'écologie. Et donc, on a une jeunesse qui est très dynamique, mais dynamique dans les États, dans les comtés. Et donc, il faudra sans doute, à un moment ou à un autre, réussir à faire en sorte que ce dynamisme local se transforme en programme national et permette à cette jeunesse de se faire entendre.
Un dernier mot, tu dis parfois qu'on est aux États-Unis dans les années 20. Alors oui, on est dans les années 2020, mais toi quand tu dis ça, tu penses aux années 1920. Ça veut dire quoi pour terminer ?
Ça veut dire que dans les années 1920, on avait toute une série de propositions dans les États, dans les villes, dans les comtés, de réformes, et que personne n'a vraiment entendu à ce moment-là. On voit qu'il y a plein d'expériences locales, et tout d'un coup, il faudra une personne, Roosevelt, qui va faire la synthèse de tout cela et qui va proposer son New Deal, cette nouvelle donne. Je pense qu'on est dans la même situation 100 ans plus tard. On a des tas de propositions sur l'écologie, sur l'économie, sur le politique, sur l'environnement. Et il faut que quelqu'un, sans doute, arrive à faire la synthèse dans un programme cohérent. Ça sera peut-être Kamala Harris, ça sera peut-être un ou une autre candidate dans 10 ans. Mais en tout cas, le dynamisme intellectuel, politique, social est là. Il faut trouver les moyens d'en faire un programme cohérent à l'échelle nationale.
Merci Romain.
Merci à toi.
États-Unis, anatomie d'une démocratie est un podcast original de France Inter.